Qu'est-ce que l'intégrisme ? On appelle ainsi le schisme qui s'est propagé dans l'Église de France sous l'impulsion de Mgr Marcel Lefebvre quelques années après le Concile Vatican II. Quelle est la pensée de ces frères chrétiens ? Je dis frère, le mot qu'on emploie couramment aujourd'hui pour parler des protestants, alors que nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'ils enseignent. Or, les différences doctrinales qui séparent les intégristes des catholiques sont à mon sens beaucoup moins importantes que les divergences entre catholiques et protestants. Je pense donc, on peut dire des chrétiens intégristes qu'ils sont nos frères, même s'ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme tels. Mais pourquoi les intégristes se sont-ils séparés de l'Église ? Pourquoi ne veulent-ils pas reconnaître François comme le pape légitime à la tête de l'Église catholique ? Pour deux raisons. Il y a d'abord toutes les allergies qui sont nées dans l'esprit d'un certain nombre de catholiques suite à des erreurs dont ils ont constaté la présence dans l'Église quelques années après la fin du Concile. Scandalisés par l'importance de ces erreurs, ils ont rendu le Concile responsable de ces déviations doctrinales. Forcé de constater que les familles dans lesquelles se sont développés des réflexes intégristes sont presque toujours des familles dont les membres ont été blessés par des comportements ou des discours qui leur ont paru, à juste titre bien souvent, totalement inadmissibles de la part de catholiques. Ils ont été énervés notamment par une certaine banalisation de l'Eucharistie, par la façon dont certains prêtres donnaient la communion sans avoir l'air d'y croire, ou par la façon dont ils semblaient bâcler la seconde partie de la messe, alors qu'ils n'en finissaient pas d'allonger de plus en plus la liturgie de la parole. Ils ont été énervés de voir de nombreux prêtres ne plus porter de signes distinctifs de leur sacerdoce, ni soutane, ni col de clergyman, ni croix. Énervés de constater l'abandon presque complet du latin dans les liturgies d'aujourd'hui, alors que le Concile Vatican II avait fortement encouragé son maintien. Ils ont été surtout scandalisés d'entendre contester des vérités fondamentales du credo chrétien, l'existence des anges ou des démons, le mystère de la providence ou du caractère sacrificiel de la messe. Pire encore, ils ont eu parfois l'impression que par désir d'écuménisme, certains clercs encourageaient insidieusement leurs ouailles à rejoindre les réformés, dans leur refus de vénérer les saints, de prier pour les morts ou d'attacher de l'importance au célibat sacerdotal. Mais quelle est donc cette Église, se sont-ils dit ? Pourquoi a-t-elle autant dégénéré ? Et ils se sont mis à penser que les décisions du Concile Vatican II étaient responsables de cette dégénérescence. Notons bien que les allergies dont nous venons de parler sont tout à fait compréhensibles, dans la mesure où il y a eu dans les milieux catholiques, à partir des années 60, une remise en question d'un grand nombre de vérités auxquelles on croyait sans problème dans les décennies précédentes. Une remise en question qui n'est d'ailleurs pas totalement terminée et à laquelle le pape Benoît XVI a voulu remédier en lançant l'année de la foi. Nous devons tous travailler à la réévangélisation de notre vieil Occident chrétien. Mais les intégristes refusent surtout d'adhérer à la déclaration faite à la fin du Concile sur la liberté de conscience. Votée en 1965, tout à fait à la fin du Concile, il y est dit que nous devons toujours accepter que d'autres ne pensent pas comme nous, qu'un État ne doit jamais forcer un sujet à professer une religion plutôt qu'une autre. En proclamant solennellement que tout homme a le droit de penser librement et de vivre selon sa conscience, cette déclaration conciliaire rejette toute forme d'intolérance religieuse. Elle est donc entre autres la condamnation de la position prise par Louis XIV, lorsqu'il révoqua en 1685 l'édit de Nantes promulgué par Henri IV. Pourquoi une déclaration qui nous paraît aujourd'hui si évidente a-t-elle pu être contestée durant les discussions conciliaires par une petite minorité d'évêques? Parce qu'ils avaient peur qu'elle soit interprétée dans un sens relativiste, c'est-à-dire comme une incitation à l'indifférentisme religieux, comme la reconnaissance implicite que toutes les religions se valent. Telle n'est évidemment pas la pensée de la déclaration, puisque le Concile rappelle par ailleurs que les hommes ont toujours comme devoir essentiel celui de chercher la vérité. Si les évêques avaient été moins pressés de mettre un terme au Concile, ils auraient peut-être pris le temps de reconnaître que, malheureusement, dans le passé, l'Église n'avait pas toujours tenu ce discours. Quand le pape Clément VIII apprit en 1596 qu'Henri IV venait de promulguer l'édit de Nantes, il fut profondément choqué qu'un prince qui se disait converti au catholicisme ait pu autoriser les Huguenots à rester dans son royaume. La liberté de conscience, disait-il, est la pire des erreurs. Mais l'heure n'était pas encore à la repentance. Il fallut entendre l'an 2000 pour que l'Église catholique, par la voix de Jean-Paul II, demande officiellement pardon pour les fautes qu'elle avait commises au cours des siècles. Rappelons aussi qu'au XIXe siècle, l'Église n'aimait guère entendre les francs-maçons parler sans cesse des droits de l'homme, parce que dans leurs discours, ils ne disaient jamais que l'homme avait aussi des devoirs, notamment celui de chercher la vérité et de mettre sa vie en accord avec sa conscience. L'Église a mis du temps à réaliser que cette doctrine des droits de l'homme était en définitive une doctrine typiquement chrétienne, puisqu'elle avait été élaborée au XVIe siècle par des théologiens dominicains et jésuites espagnols au moment de la colonisation de l'Amérique du Sud. Et cette déclaration voulait rappeler aux colons espagnols et portugais qu'ils devaient respecter les droits des populations autochtones au milieu desquelles ils arrivaient et qu'ils avaient trop d'entente à exploiter sans vergogne. Ici encore, on aurait peut-être évité le schisme créé par Mgr Lefebvre si le Concile avait pris le temps de réfléchir à la façon dont l'Église devait redécouvrir paisiblement cette merveilleuse doctrine sur les droits de l'homme, qui, repensée et déformée par les philosophes du XVIIIe siècle et la Révolution française, était devenue une doctrine laïciste qui refusait absolument toute idée de religion révélée. Un autre refus obstiné des intégristes, c'est celui de la liturgie adoptée par l'Église catholique après le Concile. La messe dite de Paul VI, il lui reproche de ne pas mettre suffisamment en valeur la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. En tournant l'autel vers les fidèles, elle privilégie sa dimension de repas et fait oublier qu'elle est aussi un sacrifice offert à Dieu. Nous verrons qu'il n'en est rien, puisque toutes les prières eucharistiques de la nouvelle messe proclament clairement sa dimension de sacrifice. Exemple, dans la prière eucharistique numéro 4, nous entendons « Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. » Enfin, disent également les intégristes, en affirmant que l'Esprit peut agir dans le cœur des non-baptisés, le Concile n'encourage plus les parents à baptiser leurs enfants le plus vite possible, ni les chrétiens à partir en mission évangéliser les païens. Nous verrons ce qu'il faut en penser. Nous savons qu'il ne manque pas de prêtres et de religieux qui, ordonnés par Mgr Lefebvre ou ses successeurs, ont rejoint par la suite l'Église catholique pour avoir compris que le Concile Vatican II n'avait nullement renié les vérités fondamentales qui la faisaient vivre depuis toujours. En elle se conservait l'intégralité de la foi. Prions pour que soient plus nombreux les intégristes qui finissent par le comprendre et qui en tirent les conséquences. Ce qui ouvre souvent leurs yeux, c'est la haine viscérale qu'éprouvent les frères de leur Église à l'égard de Jean 23 et de Jean-Paul II, du fait de leur implication très forte dans le Concile Vatican II, l'un pour l'avoir lancé, l'autre pour l'avoir mis en œuvre.